Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Océan, une plongée insolite, c'est le titre de la grande et passionnante exposition qu'on peut voir jusqu'à la fin de l'année au Musée d'Histoire Naturelle à Paris, dans la Grande Galerie de l'Évolution. Ce matin donc, dans le réveil culturel, une plongée dans les fonds marins en compagnie de Anne-Camille Bouillet, la conceptrice de l'exposition.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
Bonjour Anne-Camille Bouillet.
Bonjour.
Alors ce voyage dans les profondeurs des océans, là où réellement personne ne va presque jamais, on peut le dire, eh ben on peut le réaliser d'une manière interactive et ludique, seul, avec ses enfants ou en famille, en visitant l'exposition « Océan, une plongée insolite ».
Oui, c'est vraiment une exposition qui s'adresse à toute la famille et du coup on a conçu des dispositifs spécifiques, notamment
un sous-marin.
Voilà, juste à l'arrivée dans l'exposition, on va pouvoir simuler une descente dans le Nautile. Le Nautile, c'est le sous-marin habité de l'Ifremer, qui permet notamment aux scientifiques de descendre jusqu'à 6000 mètres de profondeur pour aller faire des observations, pour prendre des images aussi, pour prélever des spécimens. Donc là, il y aura un pilote et un scientifique qui vont devoir collaborer pour pouvoir prélever des petits spécimens de crevettes qu'on trouve dans les sources hydrothermales.
Et ça, c'est une idée aussi d'introduire les visiteurs à cette exposition et à ce monde des océans.
Oui, la première partie, c'est vraiment de poser le constat que, en fait, l'océan, c'est 71% de la surface de notre planète. C'est extrêmement vaste. C'est bien sûr un milieu très, très contraignant pour l'homme à cause du fait qu'on ne peut pas respirer sous l'eau, qu'il y fait obscur, que bien sûr la pression est très très forte, donc il a fallu inventer au cours des siècles des outils qui permettent d'aller à la rencontre d'une biodiversité étonnante.
Et on ne fait que commencer à découvrir ce qui se passe en bas.
Bien sûr, en fait, c'est encore un monde très méconnu. Et le concept de l'exposition, c'était vraiment de s'éloigner des figures familières, des baleines, des requins, de tous ces animaux de nos côtes qu'on commence à connaître maintenant de mieux en mieux, pour partir à la découverte de bêtes qu'on connaît pas du tout, qu'on n'a pas du tout l'occasion de voir et que les scientifiques commencent tout juste à découvrir.
Les scientifiques qui estiment d'ailleurs que seules 235 000 espèces marines sur les 2 millions existantes ou approximativement supposées sont connues.
Oui, tout à fait. En fait, du coup, c'est encore un très très large terrain d'exploration qui s'offre aux scientifiques. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, le fait que ce soit extrêmement vaste et que c'est difficile d'accès, c'est sûr que les découvertes se font lentement.
L'océan ou les océans ?
Alors plutôt l'océan en fait, parce que c'est vraiment un milieu continu. On peut parler d'un seul océan. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière dans l'océan.
Même si nous, on essaye de départager...
terrien. C'est ça, on en dessine arbitrairement, mais en fait, tout ça est complètement continu et du coup, les espèces peuvent voyager d'un milieu à un autre.
Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition Océan, une plongée insolite?
Alors, on voit toute une biodiversité insolite à travers différentes facettes. Donc, j'ai parlé d'une partie qui était vraiment consacrée à l'exploration. Et puis ensuite, on va plonger dans un monde microscopique, le monde du plancton. Donc, le plancton, c'est tous ces animaux animaux et ces plantes d'ailleurs, qui vont dériver au gré du courant. Et nous, on va s'intéresser plus particulièrement à ceux qui sont très très petits. Donc on va les découvrir, notamment à travers une très belle installation, un film à 360 degrés, qui nous permet d'être...
Tout en couleur,
tout en forme étrange. C'est volontairement conçu comme quelque chose de très immersif et de très contemplatif, où on va pouvoir du coup se mettre un petit peu à l'échelle du plancton, comme si on était dans une goutte d'eau. d'eau et découvrir cette beauté et cette diversité. Il y aura bien sûr tout un tas de dispositifs également pédagogiques qui permettront de découvrir la fonction du plancton, fonction essentielle à l'échelle de la planète. Et puis on découvrira ensuite des terrains qui sont peu connus car difficiles d'accès, comme le milieu profond, mais aussi le milieu polaire. On ira dans les eaux glacées de l'Antarctique à la découverte de spécimens étonnants avec des adaptations tout à fait particulières. Donc là, on aura la chance de pouvoir observer des vrais spécimens. C'est un petit peu la marque de fabrique aussi du muséum. On a du coup profité à la fois de nos collections existantes, mais aussi de spécimens qui ont été ramenés à l'occasion de campagnes scientifiques récentes et qu'on a pu faire préparer par notre taxidermiste en interne. Et donc ça, c'est, je pense, pour beaucoup de visiteurs, ce sera une première de pouvoir observer des poissons des glaces, par exemple, des poissons qu'on trouve dans les eaux antarctiques qui ont une spécificité, c'est qu'ils vont fabriquer une protéine antigel qui leur permette de survivre à des eaux qui vont atteindre pratiquement moins de 2 degrés.
Ouais, c'est un bestiaire étrange. Hein.
Tout à fait. Alors on va trouver, donc là je parlais des poissons polaires, mais on va aussi par exemple pouvoir observer un isopode, une espèce de gros cloporte des profondeurs qui fait 30 cm de long, donc des formes géantes, beaucoup d'invertébrés aussi, des choses qu'on connaît pas forcément, des gorgones, donc c'est des espèces, ça ressemble un petit peu à des plantes, des coraux aussi, des coraux profonds, parce qu'on parle des coraux tropicaux, mais en fait il y a aussi des coraux dans les grandes profondeurs. On va pouvoir aussi observer dans le milieu polaire, par exemple, des formes dites incubantes. Ce sont en fait des oursins ou des étoiles de mer qui, contrairement aux autres régions du monde, vont pouvoir garder leurs petits sur eux, alors que dans les eaux tempérées, en fait, les gamètes vont être dispersées dans le milieu. Là, ce sont du coup des formes qui conservent les petits. On aura par exemple une étoile de mer avec des tout petits bébés étoiles de mer qu'elle porte. Donc ça, c'est assez étonnant et assez même émouvant de les découvrir. On va également avoir toute une partie qui va être consacrée aux ressources insoupçonnées du milieu marin. C'est vrai qu'on pense à toutes ces ressources, d'ailleurs qui sont particulièrement surexploitées, mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut tirer du milieu marin sans le détruire, sans le piller. Je pense notamment à toutes ces molécules actives. Il y a beaucoup de molécules dans le milieu marin parce qu'il y a une chimiodiversité très forte, dans la mesure où il y a beaucoup d'organismes qui vivent fixés et qui vont du coup utiliser ces molécules pour communiquer, pour se défendre. Et dans toute cette chimie, il y a des choses qui peuvent être tout à fait intéressantes pour l'humain, notamment dans le domaine médical, comme par exemple une molécule fabriquée par le cône, qui est un coquillage, qui est un venin extrêmement puissant, qui permet de paralyser en fait ses proies. Et on s'est rendu compte que ce venin, donc enfin cette molécule qu'on a réussi à synthétiser, elle a un pouvoir antalgique très fort et elle est utilisée dans le milieu médical pour remplacer par exemple la morphine. Elle est 1000 fois plus puissante que la morphine. Donc on a comme ça un certain nombre de molécules tout à fait intéressantes.
Dans cette exposition, Anne-Camille Bouillet, c'est que on en sait beaucoup plus sur ce qui se passe dans l'espace jusqu'à la planète Mars, ce qui se passe autour des astres qui entourent la Terre, la Lune par exemple, que sur les fonds marins.
Tout à fait. Il faut savoir qu'en fait, il y a plus d'hommes qui sont allés sur la Lune que d'hommes qui sont descendus au point le plus profond connu, qui est à 11 000 mètres de profondeur. Il n'y a que 3 hommes qui sont descendus. Alors je crois qu'il y en a une dizaine qui sont allés sur la Lune.
Mais quel monde, hein, parce qu'il y a aussi le côté sombre des fonds marins, c'est-à-dire on pourrait aussi avoir peur d'y aller.
Alors on a souvent d'ailleurs assez peur du milieu marin. Il y a tout un imaginaire autour du milieu marin qui est souvent un petit peu effrayant. On parle notamment du calmar géant par exemple dans l'exposition. En tous les cas en Occident, c'est plutôt une figure qui fait peur. On a un extrait des Travailleurs de la mer de Victor Hugo qui fait une description d'un calmar ou d'un poulpe géant qui est absolument glaçante.
Mais parce que ça coïncidait avec les premières expéditions, non, le 19e siècle. Alors, c'est à partir du 19e siècle qu'on commence à s'intéresser aux fonds marins.
Alors, dans l'exposition, on montre qu'avant, il y avait déjà, bien sûr, un intérêt pour les fonds marins. Après, les grandes, effectivement, il va y avoir les grandes campagnes naturalistes qui vont débuter dans ces eaux-là. Et pour ce qui concerne le calmar géant, par exemple, en fait, les premières observations, on les fait au 19e siècle, effectivement, mais pas dans les fonds. On les observe sur des animaux échoués. Donc, à partir de ça, on peut tout imaginer.
Bien sûr, et d'ailleurs, des écrivains ont imaginé plein de choses. Donc, il y a tout un imaginaire. Le côté imaginaire, c'est-à-dire qu'est-ce que l'océan et ses profondeurs et ses secrets nous inspirent, c'est la fin de l'exposition. Mais tout d'abord, c'est une exploration des fonds marins. Et puis, il y a aussi la biodiversité qui est mise en avant dans cette exposition.
Oui, on a vraiment, vraiment voulu. On a voulu aussi casser un certain nombre d'idées reçues. C'est vrai que la première étant que les fonds marins, c'est tout plat. C'est pas vrai. Il y a des reliefs. Il y a même plus de reliefs dans les fonds marins que sur Terre. L'idée aussi qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont complètement désertés. Les fonds antarctiques, je pense que beaucoup de personnes pensent, enfin moi j'étais la première à le penser d'ailleurs, qu'il n'y a rien sous la glace. En fait, il y a une diversité très forte. C'est des jardins très luxuriants, en fait, et même très colorés. On peut imaginer que tous ces fonds sont très mornes. En fait, c'est très coloré. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a voulu casser. On a aussi un peu l'image des abysses n'abritant que des poissons très effrayants avec des gueules énormes. Là, on va montrer quelques poissons un petit peu effrayants, c'est vrai, mais pas que ça. Donc vraiment, c'était pour essayer de donner une autre approche, une autre vision du milieu marin.
Ça, c'est au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, Océan, une plongée insolite. Est-ce que la fonte des glaces, est-ce que toute la problématique sur le réchauffement de la planète se retrouve dans cette exposition?
Alors, on va parler du climat de façon un peu générale, mais on va surtout faire des points, en fait, des focus, puisque un des objectifs, c'est de sensibiliser aux menaces qui pèsent sur l'océan. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc, on va avoir tout un parcours au sein de l'exposition. On va parler notamment du microplastique, c'est-à-dire tous ces déchets plastiques, 206 kilos par seconde, qui arrivent dans l'océan, qui vont se transformer en tout petits morceaux de plastique sous l'effet de l'érosion, sous l'effet du soleil, et qui vont en fait s'insinuer dans la chaîne alimentaire, qui vont être ingérés par le plancton, donc les organismes les plus petits, et ensuite par tous les maillons de la chaîne jusqu'à nous. Donc on mange du plastique par ce biais-là.
Qu'on a rejeté nous-mêmes.
On a rejeté nous-mêmes, voilà. Mmh. Donc ça, c'est un aspect. On va parler de l'acidification des océans, aussi quelque chose de très important. L'océan va absorber une grosse partie du CO2 que nous produisons. Le réchauffement climatique serait bien plus important si l'océan n'était pas là. Le problème, c'est que bien sûr, du CO2, on en fabrique de plus en plus. Et du coup, au bout d'un moment, ça fait beaucoup à absorber. Et l'océan donc va s'acidifier. Et cette acidification est problématique pour un certain nombre d'espèces, notamment des espèces planctoniques qui vont plus pouvoir construire leur coquille calcaire. Et ça va aussi avoir un impact sur l'ensemble de la chaîne.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
I've been watching you for some time. Can't stop staring at those ocean eyes. Burning cities and napalm skies. 15 flares inside those ocean eyes. Your ocean.
Explorer d'une manière immersive un monde inconnu, effrayant par certains aspects, mais d'une beauté incroyable. Découvrir toute une biodiversité dans les abysses, c'est ce que propose la nouvelle et grande exposition au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Océan, une plongée insolite, et nous sommes avec la conceptrice de cette exposition ce matin, Anne-Camille Bouillet. Est-ce qu'on est loin de ce qu'avait imaginé Jules Verne avec 20 000 lieues sous les mers?
Alors, Jules Verne était assez visionnaire, en fait. Alors, il avait déjà un peu des éléments, parce qu'il y avait déjà des choses qui étaient connues. Mais, finalement, il a décrit des choses qui n'étaient pas connues, mais qui sont assez justes. Alors après, effectivement, il y avait ce côté très effrayant qui était beaucoup mis en avant chez Jules Verne. Mais il y avait aussi l'aspect merveilleux. Et ça, c'est tout à fait une réalité.
Par exemple, s'il fallait parler de ce qu'il avait vu et mis en scène, et qu'on peut retrouver dans cette exposition.
Alors par exemple, le calmar géant.
Le fameux calmar géant.
C'est vrai que dans la cinquième partie de l'exposition, on a voulu faire le focus sur trois animaux qui ont une réalité scientifique, mais aussi une dimension légendaire forte. Donc le calmar géant, le sélacanthe et le régalec, un petit peu moins connu. Donc le calmar géant, en fait, on l'a observé depuis à peu près le 19e siècle, à partir d'individus échoués, mais on en sait très très peu d'un point de vue comportemental. Parce que c'est un animal qui est très difficile à approcher. D'ailleurs, les premières images, le premier film du calmar géant dans son environnement, c'est 2012. C'est un Japonais très très motivé, parce qu'il a cherché un peu toute sa vie à l'approcher. Il a fini par avoir ses premières images. Et dans l'exposition, d'ailleurs, on montre sur grand format ces images de l'animal dans son environnement. On a aussi un spécimen réel de calmar géant, ce qui est extrêmement rare, qui est un spécimen qui se trouve d'habitude dans l'exposition permanente de la Grande Galerie, auquel on a refait une petite beauté pour pouvoir le présenter ici.
Alors, il a l'allure terrifiante, parce qu'il est terrifiant.
Alors, il est forcément impressionnant parce qu'il est très très grand, hein, les plus grands
géants,
spécimens.
Comme
son nom l'indique, les plus grands spécimens sont des femelles de 18 mètres de long. Le nôtre est moins grand, hein, il fait à peu près 7 mètres. Il a surtout ses grandes tentacules avec ce qu'on appelle ses massues pleines de ventouses qui vont lui permettre d'attraper ses proies. On a aussi, bien sûr, en tête les combats du calmar géant avec le cachalot. On retrouve d'ailleurs sur certains cachalots des marques de ventouses qui sont liées à ces combats. Par contre, on n'en a jamais observé, donc on les suppose, mais on n'a pas d'image de cela. On retrouve aussi dans l'estomac des cachalots des becs de calmar géant, parce que le calmar géant, il y a une espèce de bec corné un peu qui ressemble un peu à un bec de perroquet en fait, et on en a un dans l'exposition qu'on pourra découvrir.
Autre poisson des fonds marins qu'on appelle le fossile vivant.
Alors justement, on essaye de démonter cette idée parce qu'il ne faut pas l'appeler le fossile vivant, mais il est souvent appelé le fossile vivant. Il a une histoire tout à fait particulière, c'est le sélacanthe.
Le sélacanthe
qui est un animal, donc un gros poisson qui vit dans des grottes à peu près à 800 mètres de profondeur.
Et les scientifiques pensent qu'il a très peu évolué depuis l'époque des dinosaures.
Alors pas du tout, en fait.
Donc c'est la plus vieille espèce vivante de notre planète ?
Non, c'est pas ça du tout, mais c'est effectivement souvent l'image qu'il a. En fait, c'est un animal qu'on a cru disparu, on le connaissait à l'état fossile, et on a pensé qu'il avait disparu à peu près en même temps que les dinosaures. Et puis en 1938, il y a un pêcheur qui pêche un sélacanthe. Et donc là, c'est stupeur, les scientifiques se précipitent pour étudier cet animal. Les scientifiques du muséum, d'ailleurs, ont été très impliqués dans toutes les recherches autour du sélacanthe, souvent à partir d'animaux échoués aussi ou pêchés, mais on avait peu d'images de l'animal dans son environnement. Et en fait, on s'est rendu compte que cet animal existait tout à fait, donc sous sa forme actuelle. Aujourd'hui, il y en a deux espèces connues qui n'ont absolument rien à voir avec les espèces fossiles. On a continué effectivement, à cause de cette histoire, à l'appeler fossile vivant. Mais en fait, d'un point de vue scientifique, ça n'a pas vraiment de sens, puisque l'évolution, elle fait son chemin dans l'océan comme elle le fait sur Terre.
Et puis enfin, on va terminer avec le régalec.
Alors le régalec, alors lui, je pense qu'il est beaucoup moins connu du public. C'est un animal tout à fait étonnant, qui est un poisson, le plus long poisson osseux connu. Il fait jusqu'à 8 mètres de long, Il ressemble à une espèce de grand ruban argenté avec un toupet coloré. Il a plusieurs comportements étranges que les scientifiques ne savent pas expliquer. Par exemple, il nage. Oui. Il nage à la verticale, ce qui est déjà quand même un petit peu étonnant pour un poisson.
Et puis il peut s'auto-amputer sur commande nerveuse.
Oui, alors
pour des raisons qui nous échappent encore.
Les scientifiques savent pas l'expliquer, mais il peut effectivement se délester en fait d'une partie de son corps, un peu comme les lézards.
Sauf que les lézards, on sait pourquoi ils perdent.
Et puis surtout, ça repousse chez les lézards, ce qui n'est pas le cas chez le régalec. Et puis autre chose étonnante, on le voit sur des images, là encore, de l'animal dans son environnement qu'on projette dans l'exposition. Il fait une espèce de posture très étrange, une posture en croix, où il déplie ses nageoires caudales, quand il croise un congénère. Là encore, mystère, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi fait-il ça? Est-ce que c'est une parade? Est-ce que c'est un mode de communication particulier de cet animal? Ça, on n'aura pas la réponse dans l'exposition, mais on pourra juste admirer l'animal évoluant dans son environnement.
Bah alors cet animal, cet étrange animal des fonds marins, Anne-Camille Bouillet, serait lié à la légende du serpent de mer. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, il suffit de le regarder, en fait, pour se dire que il est facile, quand on a croisé un régalec, de pouvoir fantasmer autour et de pouvoir imaginer le serpent de mer, parce qu'il a vraiment cette allure de long ruban argenté. Donc on peut imaginer qu'en tous les cas, c'est une source importante d'inspiration pour cette fameuse légende du serpent de mer, qui est une légende qu'on retrouve depuis très très longtemps et un petit peu partout autour du monde. Donc on a des observations de serpents de mer dans plusieurs régions du globe, et d'ailleurs on a un petit dispositif un petit peu ludique dans l'exposition. On va pouvoir écouter avec un téléphone, on va pouvoir écouter des témoignages de personnes qui auraient vu le supposé serpent de mer.
Comment ces espèces étonnantes inspirent des artistes. Ça se termine comme ça, l'exposition. C'est beaucoup plus sur comment notre imaginaire est nourri par ces animaux, par ces fonds marins, par ces mystères qui entourent justement ces fonds.
Oui. On va d'ailleurs présenter, on a dans cette cinquième partie, un certain nombre d'objets qui sont des constructions humaines, qui s'inspirent du milieu marin. On va voir une sirène, par exemple, une sirène africaine, un Mamiwata. Et un dispositif qui va permettre de trouver des images de ces figurines marines vraiment partout autour du monde. Ce qui est étonnant, c'est de voir que c'est quelque
et
chose...
Et la sirène africaine, elle ressemble à quoi?
Alors, pas facile. Alors, c'est une terre cuite. Elle est assez élégante. Donc, c'est une femme poisson qui apporterait richesse et bienfait. Donc là, on a plutôt une vision positive de la figure marine, mais qui demande en échange à ce qu'on lui fasse des offrandes. Et si c'est pas le cas, il paraît qu'il peut y avoir des représailles très importantes.
Donc ce sont les cinq continents qui interprètent, c'est toutes les cultures du monde qui interprètent les fonds marins et leurs créatures.
Complètement. Et puis qui vont du coup leur donner soit une dimension très très effrayante, comme souvent en Occident, mais il y a aussi une dimension très positive parfois. Le calmar géant, il n'est pas craint partout. Il peut aussi avoir en Océanie une dimension plus positive, ou par exemple le requin qui va avoir une dimension aussi très bénéfique dans certaines régions. Donc c'est intéressant aussi de voir que à travers ces différents animaux, on va pouvoir avoir des interprétations très très différentes en fonction de l'époque et aussi de la région géographique.
Voilà, si vous êtes de passage à Paris, ne ratez surtout pas cette exposition pour tout public. Hein. Océan, une plongée insolite. Vous le savez, c'est bien sûr au Musée d'Histoire Naturelle à Paris, dans la Grande Galerie de l'Évolution. Merci à sa conceptrice, Anne-Camille Bouillet, d'être passée ce matin nous en parler. Merci.
Merci, au revoir.